8h57. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission L'actualité ne prend pas congé. Meilleur podcast, c'est les 50 ans de Pierre Houde à 10h. Le point de Max, d'11 à 13. Les meilleurs moments de Gravel avec Audrey Pinchot de 14h à 18h. Et par la suite, on a justement le meilleur moment de Marceau à 18h. Et podcast avec Joël Boutin à 19h que j'avais eu la chance de faire sur les femmes en politique. Manquez pas ça parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. Joël Boutin qui est une femme de tête.
Ah oui, assurément.
C'est coltaillé avec le premier ministre. Une des raisons pourquoi elle est partie. Donc, vous écouterez ceci à 19h, blvd.fm pour les meilleurs moments de notre émission. Ça inclut également la web radio, l'application BLVD 102.1. N'oubliez pas de la télécharger pour vos petits voyages ailleurs au Québec pour aller voir la famille dans le temps des fêtes. Et on est disponible sur twitch.tv/BLVD/FM. Gabriel Giguère est au bout du fil, analyste senior en politique pour l'Institut économique de Montréal. Mathias, résume-nous justement cette fameuse nouvelle qui est sortie hier, fin de matinée. Oui. Concernant un manque d'énergie au Québec.
Oui, en gros, c'est une entreprise TES Canada, là, une entreprise qui emmènerait 4 milliards d'investissements ici au Québec. Cette compagnie-là qui produirait environ 70 000 tonnes d'hydrogène vert par année. 70 000 tonnes d'hydrogène, c'est énorme, là, c'est vraiment gros. Puis pour ça, forcément, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, ce qui se passe présentement, c'est qu'avec le gouvernement du Québec, on avait une entente pour un bloc d'énergie de 150 mégawatts. Le reste, c'était la compagnie qui allait le produire lui-même. Comment qu'il allait faire ça? C'est grâce à un parc éolien de 133 éoliennes. Donc, c'est un gros parc éolien, 133 éoliennes. Puis, l'usine demande beaucoup d'énergie. Cependant, ce qui arrive, c'est que présentement, la compagnie rencontre plusieurs difficultés dans la construction de son parc. Pourquoi? Parce que les habitants de plusieurs villes sont contre la construction d'éoliennes. Je peux vous nommer, il y a eu certains référendums consultatifs par rapport aux éoliennes en question. Sainte-Mauricie, 91% contre. Saint-Luc de Vincennes, 85% contre. Saint-Aigle, 69% contre. Saint-Tite, 68% contre. Donc, il n'y a pas d'acceptabilité sociale présentement du projet, ce qui fait que ça ne peut pas avancer au rythme que la compagnie voulait initialement. Ce qui se passe donc, c'est que la compagnie a demandé 100 MW supplémentaires à Hydro-Québec pour pouvoir livrer le projet à temps. Ce serait temporaire parce qu'éventuellement, leur parc...
Éventuellement, on va réussir à les concevoir.
Du côté d'Hydro-Québec, on n'était pas favorable à l'idée. Présentement, le dossier est entre les mains du bureau du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. C'est eux qui vont prendre la décision finale. Mais on n'est pas sûr si on va pouvoir allouer ces fameux mégawatts supplémentaires-là à cette énorme usine. Si on ne peut pas, ça se peut très bien que l'usine soit repoussée.
Alors, on va discuter de ceci avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien à la veille de Noël.
Ben oui, exactement. Merci beaucoup d'être disponible ce matin pour nous. Gabriel, commençons. Manque d'énergie au Québec. Est-ce qu'on a mal planifié? Est-ce qu'on a encore des blocs d'énergie qui sont réservés pour des grands projets à la Nordvolt? Qu'est-ce qui se passe avec notre ressource première, notre fierté au Québec?
Je pense que le résumé de Mathias sur la question de TES Canada était bon parce que ça démontre un enjeu qui est plus fondamental. Quand c'est rendu que Hydro-Québec demande de pas fournir d'électricité parce que justement on nage plus dans les surplus, ça sera à la ministre Fréchette de trancher si TES Canada aura cette énergie-là. Ça démontre quand même qu'on est en rareté en matière d'énergie, d'électricité plutôt au Québec. Je pense que c'est assez clair qu'il y a eu un changement là, ou plutôt il y a un manque de vision de la part du précédent PDG d'Hydro-Québec. Ben, en fait, je recule de plusieurs PDG, ça a pas mal changé ces dernières années là, mais on pense à Éric Martel avant cette brochure qui nous expliquait qu'on nageait dans les surplus, et puis finalement, c'est pas le cas. Je pense qu'il faut vraiment regarder le plan 2035 pour bien comprendre on en est où avec l'électricité au Québec, le plan d'Hydro-Québec. Ce qu'on vient de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 200 TWh de production d'électricité. Et entre 2023, la sortie du plan, et 2035, il va falloir augmenter de 60 TWh, donc rapidement là de 30%, mais sur 25 ans, il va falloir doubler. Et quand on regarde la nouvelle électricité, à quoi servira-t-elle? À 75%, elle sert à la décarbonation de bâtiments, de transports, d'industrie, et ça, très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les politiciens au Canada et au Québec nous enfoncent en quelque sorte cette transition énergétique-là dans la gorge. Hein. On peut penser notamment à l'obligation du véhicule électrique à 100% dès 2035. On a reculé un petit peu, exactement, mais à 90%. Donc, on est très, très, très loin de l'abolition. Et on peut succéder également l'ensemble de politiques environnementales, ce qui fait en sorte que c'est une décision politique d'augmenter à ce point-là la demande d'électricité. Et donc, on en vient un petit peu à se dire, ben, comment on va faire pour notre développement économique? Parce que dans le meilleur des scénarios, 25 % de la nouvelle électricité qui sera produite par le public sera accordée aux industries, au développement économique. Et ça, ça reste faible dans un contexte où on ne permet toujours pas aux industries de produire pour une autre industrie, de vendre de l'électricité. Si y a une compagnie qui veut en produire comme Boralex, Synergex, et le vendre plutôt au gouvernement, à un TES Canada, pour ne prendre qu'un exemple, ce n'est pas permis de par la loi, même si dans le projet de loi 69, il y a commencé à avoir une première ouverture. Le projet de loi n'a toujours pas été adopté. Il ne va pas très, très loin à cet égard.
Est-ce qu'on est automatiquement opposé à ce projet-là? Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas être non plus contre la vertu d'essayer de développer de nouvelles industries, mais il y a aussi une partie de moi qui se dit on va très vite dans certaines choses avec peu de connaissances, on fait pas beaucoup de place aux experts, puis on est un peu sur le qui-vive, hein? On agit en étant trop près d'un manque d'énergie, donc on va peut-être trop vite.
Ben, en fait, le problème, c'est que ce projet-là, j'ai l'impression que c'est le contraire. En partie, je comprends du sens que c'est le premier grand déploiement éolien comme ça, là, en autoproduction, donc produit par l'industrie elle-même. Donc, on peut se poser quand même certaines questions, mais le projet, ça fait plus qu'un an qu'on en parle. Ça fait déjà un moment. Et surtout, c'est un projet, là, quand on parle de 133 éoliennes, c'est 1000 mégawatts. C'est énorme, 1000 mégawatts. Donc, en autoproduction, ce que ça vient faire, c'est justement de réduire la pression sur Hydro-Québec. Puis, j'irais plus loin. Ça réduit, étant donné que ça réduit la pression d'augmentation de la production d'électricité d'Hydro-Québec, ça réduit également la pression haussière sur les factures des Québécois et des Québécoises, que ce soit sur le plan résidentiel, mais aussi commercial ou industriel, parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter la production d'électricité. Et on sait que la nouvelle électricité qui est produite, là, elle coûte pas mal plus cher que l'électricité produite par nos barrages qui nous coûte 3-4 cents. Elle nous coûte plus quelque chose comme 11, 12, 13, 14, 15 cents le kilowattheure. Donc, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Après ça, je comprends qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas, mais il va y avoir une discussion, puis au final, ce sera le gouvernement du Québec qui risque de trancher sur la question là, de TES Canada.
Gabriel, est-ce qu'il y a d'autres ressources naturelles qui pourraient nous aider? Parce que je regarde, au niveau des barrages hydroélectriques, c'est très difficile d'en bâtir des nouveaux en raison, justement, qu'il faut avoir des ententes avec les peuples des Premières Nations parce que souvent, on est sur leur territoire. Ouais. Puis, il y a une baisse du niveau d'eau. Je regarde au niveau des parcs éoliens, même principe, l'acceptabilité sociale est toujours difficile. Quelles ressources naturelles qu'on a au Québec pourraient nous aider à produire la nouvelle électricité rapidement?
Bien, deux éléments. Le premier, c'est que d'abord, comme tu l'as très bien dit, difficile de construire des barrages, difficile de construire des éoliennes, puis on peut pas construire aussi des usines de production d'électricité à partir de gaz naturel pour deux raisons. D'abord, au Québec, on ne voudra pas ça quand on fait des appels d'offres de la part du gouvernement et on n'a jamais la question de la production d'électricité au gaz naturel. Puis plus fondamentalement que ça, ou sinon, en parallèle, je devrais dire, au fédéral, on a une réglementation qui interdit ça dès 2035. Donc, on ne permet pas l'utilisation de gaz naturel pour produire de l'électricité. Par contre, quand on regarde le plan d'Hydro-Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Décarboner les industries, très concrètement. Bien, ça veut dire qu'on va prendre les procédés aujourd'hui qui existent avec du gaz naturel, qui ne coûte pas si cher que ça, soit dit en passant. Là, il y a une artificialisation là, de l'augmentation du prix du gaz naturel avec ce qu'on appelle la bourse carbone, ou plutôt c'est le mécanisme de la bourse carbone. Là. Mais ça fait en sorte qu'on prend des ressources qu'on utilise aujourd'hui au Québec et on veut les retirer pour le remplacer par de l'électricité, ce qui vient augmenter la pression de la demande chez Hydro-Québec et la nécessité de produire plus. Donc, si on faisait juste s'asseoir un instant, puis de se dire, ben peut-être que l'augmentation qu'on est en train d'orchestrer en matière d'électricité au sein du gouvernement du Québec est trop importante, est trop rapide. va faire en sorte qu'on va réduire nos chances d'avoir et d'attirer de grandes industries au Québec. Peut-être qu'on pourrait prendre un petit peu plus notre temps pendant la transition énergétique, de conserver le gaz naturel qui fonctionne bien, qui est une énergie qui permet de chauffer et de ne pas augmenter rapidement la pression sur le réseau électrique d'Hydro-Québec. Ouais. Parce que faut quand même se rappeler là qu'en début décembre, on n'est toujours pas en hiver cette année-là.
Mais Gabriel, là-dedans, je te coupe parce que j'ai l'impression que si on est rendu à ne pas l'exploiter ou autre, si ça en est une bonne option, c'est justement parce qu'on a démonisé certaines formes et où on n'a pas assez expliqué. Puis ça, c'est de la faute du gouvernement. Donc, si on n'est pas capable d'avoir les couilles politiques pour expliquer quelque chose qui ne va pas passer au départ... et qui est sécuritaire ou quoi que ce soit. On parle du nucléaire aussi. Parfois, il y a plein d'experts qui commencent à se prononcer en disant « Attendez, là, c'est plus le nucléaire d'autrefois, etc. » Mais c'est peut-être là où ça achoppe, où tu vois la force d'un gouvernement qui finalement est faible.
Pascal, tu as totalement raison, là, parce que ce qu'on a vu en 2022, c'est quand même un gouvernement qui est venu démoniser justement le gaz naturel et le pétrole, qui nous a dit « Nous autres, on ne l'exploitera plus ». On ne fera plus d'exploration non plus pour savoir la quantité de nos sous-sols, de nos réserves en matière de ces deux ressources naturelles-là. Et on a cassé du sucre aussi sur le dos d'un projet comme GNL Québec. Puis je me permets de faire une parenthèse pour dire que la semaine dernière, Ipsos a fait un sondage pour voir si un projet comme GNL Québec aurait l'appui des Québécois pour fournir du gaz naturel en Europe, puis il y a un appui de 67%. Donc, effectivement, le gouvernement a tellement fait son pain et son beurre en 2021-2022 contre les ressources naturelles dites fossiles ou les hydrocarbures, qu'aujourd'hui, on commence à comprendre l'ampleur de notre bouquet de mesures politiques pour artificialiser la transition énergétique, mais dans un contexte où on se dit, ben, on peut plus faire ça, mais en même temps, on peut plus nécessairement revenir en arrière pour dire, ben, peut-être qu'on s'est trompé, il y a l'élection qui arrive dans moins d'un an. Comment on va faire au sein du gouvernement? J'espère qu'on va avoir la présence d'esprit de se dire on va penser aux Québécois d'abord avant les prochaines élections, puis peut-être une forme de manque de cohérence dans les prises de position, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on dit non à des ressources que la majorité des Québécois seraient prêts à exploiter, veulent utiliser. Puis je pense au Québec que c'est le secteur énergétique est le secteur où les gouvernements sont le plus en décalage avec la population. Je dirais même tous les députés de l'Assemblée nationale sont en complet décalage avec la population quand on interdit l'exploitation de gaz naturel et de pétrole au Québec, mais qu'on a une majorité claire de Québécois qui est en faveur année après année. Et puis ça, se fait des sondages sur la question. C'est quand même assez vertigineux. On a l'impression qu'on est dans du signalement de vertu au sein de l'Assemblée nationale plutôt que d'écouter la population québécoise.
Exactement. Je termine là-dessus, Gabriel Jugard. Je ne vois pas, à moins que tu aies quelque chose d'autre dans ta boule de cristal, un parti politique dans la campagne électorale aller à l'encontre du développement d'Hydro-Québec et continuer justement dans cette logique d'électricité propre et de notions parapubliques pour justement l'énergie.
Je suis tout à fait d'accord avec toi pour les partis politiques au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, on verra comment le Parti conservateur du Québec va se positionner. On est quand même plus ouvert sur la question du développement fossile. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est quand même en faveur aussi de la prospérité des Québécois et des Québécoises. Donc, j'encourage les partis politiques à réfléchir à ça pour octobre 2026.
Gabriel Jugard est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. C'est toujours un plaisir de te parler, mon ami. Je te souhaite des joyeuses fêtes et reviens-nous en forme en 2026 parce que c'est clair qu'on va continuer de se jaser, surtout dans l'émission
Joyeuse
On en jase le midi.
Joyeuses fêtes,
Gabriel. Salut, merci beaucoup. Gabriel Jugard de l'Institut économique de Montréal. Pascal, t'as amené un excellent point. Il n'y a pas de courage politique qui fait en sorte qu'on s'embourbe à l'heure actuelle avec notre énergie et qu'on arrive à des situations comme en décembre où, Colin, on n'a plus d'énergie ici au Québec.
Mais ça, c'est vraiment particulier parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Voyons, c'était notre ressource principale. Comment est-ce qu'on s'est rendu là? » Et on parlait peut-être de surplus d'électricité. Certains disaient que ce n'était pas un surplus, c'était juste de l'électricité disponible. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on demande de faire attention puis que le relais, par exemple, ferme. La montagne ici, là, ferme une journée parce qu'on demande de faire un effort collectif sur notre électricité puis l'exploitation de ça. Là où je suis un peu mitigée, c'est... Tu sais, des fois, il y a des émissions de télé, là, je prends Luc Dionne. Suivez-moi, on va arriver à bon port.
Okay? Parfait, je te suis.
Luc Dionne, entre autres, va témoigner au procès de Jonathan Betté. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que souvent, il y a de l'information de ce qui se passe en arrière qui est assez pertinente pour être dans un procès moment. Okay? Alors, Luc Dionne va créer des émissions souvent avec l'information qu'il va avoir recueillie sur le terrain. Maintenant, cette saison-ci, Avant le crash, qui est une émission de télévision qui est passée dans vos téléviseurs, qui est encore disponible sur tout.tv, avait de l'information qui m'a fait hautement réfléchir sur l'éolienne. Parce que là, on le sait, il y a des gens qui exploitent les terres agricoles en disant « on va te donner un montant, de toute manière, tu n'arrives pas financièrement dans ton année. Sur ta terre agricole, on voudrait planter, monter 3-4 éoliennes, bien. Mais ça crée des problèmes environnementaux, un manque d'exploitation de terre, ça scrape aussi, le passage de certaines migrations. »
En effet.
C'est-tu vraiment la solution? Est-ce que c'est vraiment la solution, mm-hmm. l'éolienne? Moi, souvent, je vois l'émission, je me dis « crime, y a-tu quelque chose, y a-tu une discussion qui a été faite, y a-tu de l'information qu'on est allé chercher, y a-tu des angles morts qu'on voit pas puis qu'on nous expose pas parce qu'il faut se dépêcher à aller chercher une ressource d'énergie? » Ça fonctionne pas toujours, c'est au gré du vent, c'est le cas de dire. Puis, pourquoi on n'a pas une éducation plus musclée en ce sens-là? Si on veut conserver les ressources ici au Québec, au Canada, d'hydroélectricité, qui est probablement l'une des choses qui va nous sauver à plus long terme au niveau économique, à l'international.
Clairement.
Pourquoi on ne fait pas bien les choses? J'aurais beaucoup plus d'intérêt et d'admiration envers un gouvernement qui ne voudrait pas se faire réélire tout de suite là-dessus puis qui dit « nous, on va essayer de mettre en place quelque chose » puis on croit que le gouvernement qui va nous suivre, si ce n'est pas nous, ils ne peuvent pas dire ça de même,
ouais.
va continuer ce qu'on a mis sur pied. Mais avec les meilleures conditions, on va prendre plus de temps. On veut pas se faire élire là-dessus. On veut, entre parenthèses, sauver le Québec. Ils vont gagner des plumes comme
puis,
ça.
Tu vois, justement, moi, je m'attendrais à ce que on soit très novateur dans le livre bleu du PQ pour la souveraineté. Ouais. Parce qu'une souveraineté, ça passe par une souveraineté économique, une souveraineté énergétique. Et ça, pour moi, c'est un point majeur.
Oui.
Donc, normalement, le PQ devrait se positionner pour de la nouvelle exploitation de ressources.
Et la meilleure option. Donc, faites-les les études, parlez aux experts. Si ça vient avec des énergies qui sont un petit peu difficiles à faire passer dans la gorge de bien du monde, expliquez.
Exactement.
Faites-en un projet commun. On en a eu des projets communs dans le temps. C'est quand qu'on a eu le dernier.
Ben oui.
Ça fait longtemps.
Soyons pédagogues, mais pédagogues en étant en faveur et non pas pédagogues en étant en défaveur, justement, de l'exploitation. Puis je vais prendre, par exemple, l'exploitation du gaz naturel, qui pourtant, lorsqu'on sonde les Québécois disent « Hey, ben oui, sais-tu, on est sûrement rendu là dans notre échéancier de production. »
Mais ce qui rend la chose difficile pour un parti comme le Parti québécois, c'est qu'ils ont quand même une position environnementale. Puis je m'explique, habituellement, puis justement pour cette raison, ça m'étonnerait bien gros que dans le livre bleu, quelque part, on retrouve une exploitation quelconque du gaz naturel. Parce que ça reste une énergie fossile, ça reste une énergie qui pollue moins que le charbon, qui pollue moins que le pétrole, mais que ça reste une énergie fossile qui pollue quand même considérablement. Fait que pour un parti qui a une ligne éditoriale quand même assez forte côté environnemental, puis qui cherche à pousser énormément les énergies renouvelables de l'avant, puis je dis pas que je suis d'accord avec ça. Ce que je dis, c'est que ça m'étonnerait bien gros qu'on voie un Paul Saint-Pierre Plamondon dire « Dans mon livre bleu, on va l'exploiter, le gaz naturel. » Ça irait un peu en encontre de ce qu'il a démontré dans les dernières années au sein de son parti.
Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Malheureusement, on est dans cette mouvance-là de prendre soin de l'environnement, ce qui n'est pas une mauvaise mouvance, là, soit dit en passant, mais malheureusement, ça nous amène des fois à poser des gestes qui sont un petit peu trop à l'extrême par rapport à ce qu'on pourrait développer en ressources naturelles.
Effectivement, puis Christian, il apporte un point quand même intéressant. Christian, il parle du nucléaire. On a fermé une usine nucléaire au Québec, puis nucléaire, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, oui, ça crée beaucoup de déchets, mais ça, c'est souvent peu connu de la part du grand public. Le nucléaire émet aucune émission de GES, ou du moins quasiment aucune. C'est quasiment nul comme émission. C'est une énergie très verte sur le point d'émission de GES. Et on regarde mondialement parlant l'effort environnemental présentement, puis c'est normal que ça l'ait avec les réchauffements climatiques, c'est les émissions de GES. Fait qu'à certains moments, il va peut-être falloir qu'on soit prêt à faire des compromis en disant « On sait que oui, ça crée certains déchets, une énergie comme le nucléaire, mais notre priorité environnementale, présentement, c'est de baisser nos émissions de GES. Fait qu'on est prêt à faire le compromis de dire, oui, on va créer certains déchets nucléaires, mais en échange, on va avoir une énergie qui est verte du point de vue émission GES.
Après la pause, on aura deux choses différentes à l'actualité ne prend pas congé. Premièrement, on va parler avec Éric Ouellette, qui est un spécialiste justement en conflit armé à l'international. Il est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège Force armée canadienne et au Collège militaire royal du Canada. On va revenir sur la situation du Venezuela, Pascal, parce que il y a énormément de tractations à l'heure actuelle. Oui. Les États-Unis qui continuent à pourchasser des pétroliers. Le Venezuela qui a mentionné hier, on a l'approbation de Moscou pour continuer. Alors, on va en être où avec ce conflit-là? Est-ce qu'on risque de vivre un nouvel épisode de la guerre froide? C'est ce qu'on va parler avec Éric Ouellette. Et on va revenir avec les manchettes et les nouvelles à retenir pour la journée. Et notamment, on va parler de Marc-André Fleury, Pascal. Marc-André Fleury, ce gardien de but qui a pris sa retraite. Il a joué un petit match sur concours cette année avec les Penguins de Pittsburgh pour se retirer dans l'uniforme des Penguins où il avait gagné 3 Coupes Stanley. Mais là, semble-t-il qu'il y a des équipes qui se disent « Ouais, ça va pas bien dans le filet pour mon équipe à l'heure actuelle. » Quand Marc-André, ça lui tente-tu de sortir de sa retraite à 41 ans? Est-ce que Marc-André Fleury va dire « Sais-tu quoi? L'hockey, ça me manque. » Marc-André Fleury, Pascal, c'est le plus grand blagueur de l'histoire de la Ligue nationale.
Blagueur.
C'est un coéquipier hors pair.
Okay.
Il fait toujours des jokes à son monde. Les gens l'adorent.
Mais il est-tu bon sur la glace, mettons, au point où quand tu sors de ta retraite, quand tu arrêtes
ouais,
un moment?
On va regarder ses statistiques de l'an passé, puis il était encore capable de faire le travail quand même. Donc, on va jaser de ça après notre conversation avec Éric Ouellette à l'actualité ne prend pas congé sur les ondes de Boulevard 102.1. L'actualité ne prend pas congé.